Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, Est de la RDC, Human Rights Watch dénonce rafles et abus du M23 et des forces rwandaises. Un rapport accablant documente détentions arbitraires, meurtres et recrutements forcés entre 2024 et 2025 dans le nord et le sud Kivu. Ituri, 9 survivants d'Ebola présentés aux équipes de riposte. Un traitement symptomatique suivi d'un protocole établi permet d'ajouter ces guérisons à la dizaine déjà enregistrées depuis le début de l'épidémie. Ituri, Damien Maman en mission face à Ebola. Le coordonnateur intérimaire des affaires humanitaires en RDC livre ses impressions et propose des pistes pour renforcer la riposte après 2 jours de visite à Bunia et à Mongwalu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal parlé de la mi-journée. Les forces militaires rwandaises et le groupe armé M23 ont mené une campagne de recrutement forcé et de détention abusive des milliers de combattants capturés et des civils dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Le rapport de 87 pages intitulé « La mort était partout, détention arbitraire ». Meurtres et recrutements forcés commis par les M23 et les forces rwandaises de défense documentent les rafles de grande ampleur et arrestations dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'est de la RDC, ainsi que des graves abus commis contre des détenus dans les camps de formation militaire des Rumangabo et des Tchanzu dans la province du Nord Kivu entre mi-2024 et décembre 2025. On écoute d'autres explications avec Clémentine Demonjoy, chercheuse senior au sein de la division Afrique des Human Rights Watch. Elle a été jointe par Alain Irungumushi.
Human Rights Watch a publié un rapport aujourd'hui documentant comment les forces militaires rwandaises et le groupe armé du M23 ont mené une campagne de recrutement forcé et de détention abusive de milliers de combattants capturés et de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rapport documente des rafles de grande ampleur et des arrestations qui ont eu lieu tout au long de l'année 2025 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, à l'est du Congo, ainsi que les graves exactions commises contre les détenus dans les camps de formation militaire de Rumangabo et de Tchanzu dans le Nord Kivu. Nous avons documenté comment les combattants du M23 soutenus par les forces rwandaises ont commis des meurtres, des actes de torture, des châtiments corporels et ont eu recours au travail forcé et à des enfants soldats. Ces abus constituent des crimes de guerre et devraient faire l'objet d'enquêtes en tant que possible crimes contre l'humanité.
Dans le même registre, les tirs nourris ont résonné jusque dans la matinée de ce mercredi dans plusieurs localités du territoire de Masisi, au Nord Kivu. Les affrontements entre les Wazalendo et les rebelles de l'FCM 23 se concentrent notamment à Kichanza et Kaseni, une situation qui inquiète les communautés locales redoutant un impact direct sur les activités scolaires dans la zone. Reportage signé John Chibwabwa.
Après une journée tendue marquée par la reprise des combats mardi, des tirs ont été de nouveau signalés ce mercredi matin dans le village de Kasovu et ses environs, dans les groupements de Ufamandu ainsi qu'à Kaseni, dans les groupements de Kibabi. D'après des sources locales, des éléments de la coalition Maïmaï Lamouka et du groupe armé de volontaires GAV auraient riposté à une attaque lancée par le rebelle de l'AFC M23 de 5h du matin. Par ailleurs, d'autres affrontements ont été rapportés mardi dans les villages de Kazinga, situé dans les groupements de Nyamaboko en secteur d'Osobanyungu. La société civile locale indique que cette nouvelle escalade de violence entraîne des déplacements des populations et perturbe les activités socio-économiques ainsi que scolaires. À la veille du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP et à quelques jours du début des examens d'état 2026, la société civile craint des perturbations dans le déroulement des épreuves. Elle appelle les autorités scolaires à prendre des mesures mesures préventives en faveur des élèves concernés.
Sécurité, toujours le commandant intérimaire de la 11e région militaire, le général de brigade Moyo Rabi Richard, appelle tous les militaires en séjour à Kikwit, qu'ils soient en mission, en concours ou détachés d'autres unités, à se présenter sans délai à l'état-major. Cette invitation est relayée ce mardi par les directeurs de la communication de la 11e région militaire. Selon le capitaine Anthony Mwalouchai, cette convocation vise la communication d'un message important de l'autorité militaire. Tout manquement à cette instruction exposera les concernés à des sanctions disciplinaires et à d'éventuelles interpellations par les patrouilles de contrôle, dit-il. On écoute les explications du capitaine Anthony Mwalouchai dans cet extrait proposé par Vanessa Kongolo.
L'appel lancé par le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant ad intérim de la 11e région militaire, s'inscrit dans une démarche de contrôle, d'encadrement et de protection des militaires présents dans la ville de Kikwit et ses environs. Ces derniers temps, des cas d'insécurité ont été signalés dans certains quartiers de la ville et dans des zones périphériques. Face à cette situation, le commandement tient à s'assurer que tous les militaires séjournant à Kikwit, qu'ils soient en mission, en transit, en concours ou en provenance d'autres unités, soient dûment identifiés et enregistrés. Cette mesure vise également à éviter toute confusion entre le militaire régulier des FARDC et les individus mal intentionnés qui cherchent à semer l'insécurité au sein de la population. Le message du commandement est clair. Cette convocation n'est pas seulement une exigence administrative et disciplinaire, elle constitue également une mesure de protection des militaires eux-mêmes.
En Ituri, 9 malades d'Ebola sont sortis guéris des hôpitaux généraux de référence de Niakoundé dans les territoires de Rumu et de Mongwalou, dans celui de Djougou. Ils ont été présentés mardi aux équipes de riposte. Selon le responsable de la zone de santé de Niakoundé, ces survivants d'Ebola ont bénéficié d'un traitement symptomatique suivant un protocole établi. Ils viennent s'ajouter à une dizaine d'autres anciens malades déclarés guéris depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola. Les points avec vous, Marcel Kizabiamongo.
Avec leur certificat à main, les 8 anciens malades d'Ebola, sourire aux lèvres, sont sortis guéris d'Ebola de l'hôpital de Niakoundé. Au cours d'une courte cérémonie, le médecin directeur de cette structure sanitaire a expliqué que ces survivants sont déchargés de cette maladie après avoir été soumis au traitement des symptômes qu'ils manifestaient, fièvre, maux de tête et diarrhée. Le docteur Désiré Douabo appelle la population à se présenter chaque fois à l'hôpital en cas de manifestation de l'un de ces symptômes pour des tests d'Ebola et espérer la guérison en cas de résultats positifs.
Le fait de se présenter tôt au niveau des établissements de soins de santé, quand on a commencé à présenter les signes septembre, ça permet un traitement précoce.
À Mongwalou, à 85 km au nord de Bounia, l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola en RDC, les premiers patients guéris sur place et sortis ce mardi 9 juin au centre de traitement d'Ebola local. Les notables saluent la bravoure et les efforts du personnel soignant. Ils ajoutent que ces guérisons donnent de l'espoir, celui que cette maladie hémorragique est peut-être vaincu. Cela malgré l'absence de médicaments et des vaccins appropriés. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Au Maniema, la situation de la santé maternelle inquiète. Lors des 21 premières semaines de cette année, 80 décès liés à l'accouchement ont été enregistrés. L'ONG Action contre la marginalisation tire la sonnette d'alarme et appelle à une mobilisation urgente du gouvernement et des partenaires pour protéger les femmes enceintes. Son coordonnateur Jacques Lumangala Bilembo s'est exprimé à Kindu lors de l'atelier d'actualisation du plan quinquennal 2025-2030. Il est au micro de Florence Kizalunga.
80 décès maternels avec focus dans cette zone de santé, Kunda, Lusangi, Salamabila, Kampene, Punya, Kalima et Kindu. Vous comprenez, il y a un total de 56% de décès revus. Face à cette situation, notre organisation vient parmi ses axes stratégiques de prioriser la santé maternelle et infantile et la vaccination de routine, parce que vous êtes sans ignorer que la province a enregistré 9 cas de PFA. Nous prenons donc l'engagement avec l'appui de la Division provinciale de la santé de lancer des actions de mobilisation communautaire afin d'améliorer le suivi de la femme enceinte, son accouchement assisté par les personnels qualifiés, parce que parmi les facteurs associés aux causes de ces décès, c'est le retard de référence, manque parfois des intrants, problème de formation des ressources humaines et les hémorragies surtout post-partum. Nous lançons un plaidoyer aux bailleurs des fonds et au gouvernement congolais de ne pas rester indifférent face à cette situation alarmante.
Trois jours de réflexion scientifique autour de la Constitution du 18 février 2006, c'est le programme du colloque national organisé du 10 au 12 juin par le ministère de l'Enseignement supérieur. Enseignants, chercheurs et étudiants vont unir leurs voix pour renforcer l'état des droits et la gouvernance démocratique en RDC. Trois pôles thématiques guideront les débats. Kinshasa sur la géostratégie, Kisangani sur le social et l'environnement et Lubumbashi sur l'industrie et la transition énergétique. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental sont convoqués à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. L'instruction est contenue dans un télégramme envoyé ce mardi. La plénière prévue le même jour a été renvoyée sine die. Depuis vendredi, l'hémicycle est secoué par de fortes tensions autour de la tenue du contrôle parlementaire sur l'exécutif provincial. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental doivent rejoindre Kinshasa de ce mercredi. Ils sont convoqués d'urgence par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur selon un télégramme parvenu ce mardi à l'organe délibérant. Conséquence immédiate, la plénière programmée ce mardi a été renvoyée à une date ultérieure. Elle devrait examiner plusieurs points sensibles, notamment l'adoption d'une résolution sur le contrôle parlementaire visant l'exécutif provincial, la direction générale des recettes du Kasaï oriental et la mairie de Mbujimayi pour la période allant de 2025 à ce jour. Un autre dossier inscrit à l'ordre du jour concernait l'adoption du procès verbal de la séance précédente au cours de laquelle certains députés avaient retiré leur confiance au vice-président de l'Assemblée provinciale. Ce dernier est accusé de manquement dans l'exercice de ses attributions, en particulier la non-organisation du contrôle parlementaire pourtant au cœur de la session en cours. Vendredi dernier, la tension était vive au sein de l'hémicycle. L'utrin renversé, plénière suspendue, échange houleux, plusieurs députés s'étaient opposés à l'idée de lancer le contrôle parlementaire à seulement 15 jours de la clôture de la session. La proposition du vice-président d'instaurer un contrôle parlementaire spécifique avait encore aggravé la crise. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Kasaï central voisin, pendant ces temps, Béatrice Kapinga fait son entrée au gouvernement provincial. Ancienne conseillère en communication du gouverneur, elle a été nommée lundi ministre des Finances, de l'Économie et du Commerce. Elle devient la deuxième femme du gouvernement Kambourou II. Sa nomination est applaudie par les organisations de défense des droits des femmes qui y voient un pas important vers une meilleure représentativité. Explication avec André Katende Ngalamulume.
Béatrice Kapinga remplace Crispin Kekenyi à la tête du ministère provincial de Finances, de l'Économie et du Commerce. Ces derniers avaient été nommés lors de la publication du gouvernement Kambourou II en mai dernier, mais ils n'avaient jamais été officiellement notifiés. Selon plusieurs sources, cette situation serait liée à ses prises de position critiques à l'égard du régime actuel sur les réseaux sociaux. Avec cette nomination, le nombre de femmes au sein du gouvernement provincial passe à 2. Les organisations de défense des droits des femmes au Kasaï central saluent cette décision. Elles y voient une avancée vers une meilleure représentation féminine dans les sphères des décisions. Toutefois, elles poursuivent leur plaidoyer pour une présence plus importante des femmes dans la gestion des affaires publiques. Nathalie Kambala-Loussé, directrice de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral FMDI, estime qu'il s'agit d'un signal fort en faveur de la participation des femmes à la gouvernance. Kananga, André Katendenga Lamulume, Radio Okapi.
Retour dans la capitale. Le gouvernement accélère la modernisation du réseau routier national. Lors d'un briefing de presse co-animé mardi à Kinshasa avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a mis en avant les efforts engagés pour renforcer les réseaux routiers nationaux. Pour appuyer ses propos, il a indiqué que le réseau routier national est passé d'environ 3000 km en 2019 à près de 8000 km en 2026, témoignant d'une avancée significative dans ces secteurs clés. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Face à la presse, John Banzalunda a souligné que l'appropriation du réseau routier national constitue un enjeu majeur pour la RDC. Selon lui, cette question touche plusieurs dimensions essentielles, à savoir la souveraineté économique, l'intégration nationale et le développement des infrastructures. John Banzalunda.
Il y a ce travail de reconstitution, de reconnexion du pays. Nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour assurer une certaine appropriation nationale de notre réseau routier. Et c'est pour ça que nous sommes en train de reconfigurer le réseau routier.
Cependant, une grande partie des travaux, notamment sur la route nationale numéro 1, repose encore sur les financements extérieurs. Ces projets sont soutenus par des partenaires internationaux, notamment Banque mondiale, Banque africaine de développement, ainsi que des accords de coopération, dont les contrats sino-congolais révisés. Certains analystes soulignent cependant la nécessité pour l'État congolais de renforcer son autonomie dans les financements des infrastructures. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, les défis restent importants. La RDC devra conjuguer financement interne, partenariat stratégique et gouvernance centralisée pour consolider durablement son réseau routier et accompagner son développement économique.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un maître coranique issu de l'une des plus prestigieuses lignées maraboutiques du pays a été condamné lundi 8 juin à 20 ans de prison pour des viols et actes pédocriminels infligés à 28 de ses élèves dans une école coranique de la ville de Touba à 200 km de Dakar. Une décision historique dans un pays où le viol n'a été criminalisé qu'en 2020.
L'invité.
En Ituri, le coordonnateur intérimaire des affaires humanitaires en RDC, Damien Mama, vient de boucler une mission de 2 jours à Bounia et Mongwalou, au cœur de l'épidémie d'Ebola. Après avoir visité les centres de traitement et échangé avec les équipes de la riposte, il livre ses impressions, souligne les défis à venir et propose des pistes pour renforcer la réponse. Damien Mama s'entretient avec Isaac Remoyopé.
Damien Mama, bonjour.
Bonjour.
Vous effectuez votre première visite à Ituri depuis votre prise de fonction. Quels sont les objectifs de cette mission dans le contexte actuel de l'épidémie d'Ebola?
Cette mission a 3 objectifs. Le premier, c'est de témoigner notre compassion envers les communautés. Et deuxièmement, c'est d'exprimer notre solidarité aussi envers les centaines de personnels des Nations Unies et de la communauté humanitaire qui appuient le gouvernement dans la riposte contre l'épidémie. Et puis troisièmement, nous familiariser aussi avec les défis en termes de déploiement du personnel, renforcement des systèmes et l'amélioration de la riposte avec à la fois les questions sanitaires, mais les questions non sanitaires aussi.
Vous vous êtes rendu à Mongwalou, l'un des principaux épicentres de l'épidémie. Quel état des lieux faites-vous de la situation sur place, notamment à ce qui concerne la prise en charge des patients et les efforts de riposte?
Cette visite, je l'ai faite avec le DG de l'INSP, le coordonnateur du COUSP, ainsi que Africa CDC, l'UNICEF, l'OMS et d'autres qui sont impliqués dans la riposte. Ça nous a permis de constater que le déploiement des équipements, des centres de traitement d'Ebola, les laboratoires, le renforcement des capacités, l'engagement communautaire, tout ce système est en train de se mettre en place ou est déjà opérationnel. Mais comme vous le savez, l'épidémie est un peu en avance et il va falloir accélérer la réponse. Il va falloir améliorer les chaînes logistiques. Il va falloir améliorer la décentralisation. Il faut capaciter les gens qui sont sur le terrain et qui ont besoin de prendre des décisions en un temps record.
Malgré les actions déjà engagées, l'épidémie continue de progresser. Vous venez même de le souligner dans certaines zones. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels les équipes de riposte sont confrontées sur le terrain?
Le principal défi, c'est comment on change de rythme pour aller plus vite que l'épidémie. L'épidémie a pris les communautés par surprise. Et donc, quand ça vient ici, il y a des malcompréhensions, il y a des interprétations. Aujourd'hui, dans les communautés, il y a des gens qui sont convaincus que Ebola n'est pas Ebola et qui ont leur théorie du complot avec une sorte de désinformation qui est en cours. Il faut contrecarrer cette désinformation. Et pour le faire, ce sont les populations locales qui doivent être mises au centre.
Au cours de votre séjour, vous deviez rencontrer le gouverneur ou les autorités provinciales ainsi que les partenaires humanitaires. Quels ont été les principaux sujets abordés et quelles décisions ou recommandations ont émergé de ces échanges?
Le premier point qui a été abordé par la communauté humanitaire et les partenaires, c'est la question de la coordination entre les différentes entités qui sont impliquées dans la réponse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut suffisamment financer la réponse. C'est vrai que le gouvernement...
Parce que là, il y a une forte mobilisation même des pays étrangers.
Oui, c'est vrai. Il y a eu des annonces qui ont été faites. Ce sont des choses qui doivent se matérialiser concrètement. Et c'est dans la coordination entre le niveau national, le niveau provincial, le niveau provincial et le niveau local qu'on doit aussi énormément investir. Et je profite pour aborder aussi la question de la décentralisation. On ne doit pas faire la réponse à partir du sommet. Il faut le faire à la base. Il faut mettre en place des chaînes logistiques et des moyens de communication et des mécanismes de décision qui assurent la rapidité de l'action au niveau local. Que les ressources ruissellent vite et que les paquets d'accompagnement de la réponse pour qu'on ne puisse pas se retrouver dans une situation où la maladie est en train de courir très très loin et nous on est derrière.
Une dernière question, quelles mesures concrètes ou quel soutien supplémentaire la population de l'Ituri peut-elle espérer à la suite de votre visite pour renforcer la lutte contre Ebola et protéger les communautés affectées?
La communauté de l'Ituri doit savoir que nous sommes avec elle. Et je profite aussi pour lancer un appel aux acteurs de l'Ituri pour qu'ils puissent s'impliquer dans la riposte. Donc nous sommes tous menacés. Et c'est pour ça que nous devons nous engager, quelle que soit notre appartenance idéologique, politique, ethnique et autres, pour que les populations comprennent que la menace, elle est importante et qu'il faut réduire et éliminer la menace, quitte à ce qu'on se retrouve plus tard pour résoudre nos différends en famille.
C'est le coordonnateur intérimaire des affaires humanitaires. Je vous remercie.
Je vous remercie.
C'était notre invité Damien Mama, le coordonnateur intérimaire des affaires humanitaires en RDC, qui s'entretenait avec Isaac Remoyope. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota-Chivueta, supervisé par Alain Irongo-Mochinge et mis en onde par André Mongou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.